48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme.
Rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à tous, 72e MAG. Bonjour Ludo.
Salut Nico.
Ludo est de retour dans nos studios. Et on va accueillir aujourd'hui donc Nicolas Blanc pour les scènes croisées qui vient nous parler, voilà ça démarre mal, qui vient nous parler des instants sonores, un événement qui aura lieu très bientôt. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Et Stéphane Salva, donc délégué UFOLEP, qui lui s'occupe plus de sport et qui va venir nous présenter un petit peu son programme et l'activité, les actions de l'UFOLEP qu'on connaît très bien de nom, mais pas forcément au quotidien ou tout ce qui se fait sur ce département. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bon, on va commencer tout de suite avec toi.
Ouais.
Alors avec peut-être un petit peu un historique, parce que l'UFOLEP, on en entend parler, on parle de l'UCEP, de l'UFOLEP, de la Ligue de l'Enseignement. Tu peux nous présenter un petit peu ce mouvement ?
Ouais, alors c'est vrai qu'il est connu, à la fois connu et pas connu, l'UFOLEP, hein, puisque de nom pas mal le connaissent, mais on a un petit peu du mal à le cerner. Alors l'UFOLEP est une fédération sportive au sein de la Ligue de l'Enseignement. Hein, l'UFOLEP a été créé au niveau national en 1928. En ce qui concerne la Lozère, ça a été créé en 1965. Voilà, donc ça a de forts liens avec la Ligue de l'Enseignement. C'est encadré par... Donc moi, je suis le salarié de l'UFOLEP et je suis... mon métier d'origine, c'est enseignant. Hein. Alors, il faut de forts liens avec l'éducation nationale.
C'est un mouvement donc, qui est délégataire ?
Alors c'est une fédération, alors elle n'est pas délégataire justement, contrairement à la FFF par exemple.
Alors délégataire, ça veut dire qu'en fait on s'occupe que d'un sport et on est reconnu.
Que d'un sport, on a la délégation de l'État pour gérer ce sport. Et nous c'est une fédération, donc elle est à la fois multisport et affinitaire. Multisport, donc il y a plusieurs sports, on peut pratiquer plusieurs sports avec une licence UFOLEP. Et affinitaire, c'est un petit peu en opposition à délégataire, c'est par affinité à certaines idées, à certains principes. Les fédérations affinitaires s'occupent plus de la personne, du
développement de la personne.
Voilà, du développement de la personne. Les délégataires s'occupent plus du développement du sport.
Du sport, d'accord. Et de la compétition et tout ça.
Voilà.
Alors, donc, si je comprends bien, dans les années 1930, création de ce mouvement, 1934, je crois exactement, non ?
28, je crois. Mais bon, c'est pas grave, on passe à...
Bon, par là. Voilà, avec la volonté d'amener le sport un petit peu partout, sur tous les territoires, c'est ça ? Avec un partenariat très important avec l'éducation nationale et la Ligue de l'Enseignement, c'est-à-dire, en gros, c'est la partie sportive de la Ligue de l'Enseignement.
Voilà, c'est une des parties sportives de la Ligue de l'Enseignement, parce qu'il y a deux parties sportives dans la Ligue de l'Enseignement, il y a l'UFOLEP et l'UCEP. L'UCEP, c'est le sport scolaire. L'UFOLEP, c'est le sport du week-end, on va dire, de
D'accord.
la semaine et du week-end, mais pas scolaire, pas de l'école.
Sport si associatif.
Voilà, associatif.
Alors, les objectifs de cette association ? Ouais, Ludo ?
Vas-y, les objectifs, ouais.
Donc, les objectifs de l'association, donc, de par sa particularité d'être affinitaire, c'est surtout le développement de la personne. Donc,
découverte.
Voilà, par le sport, mais aider les personnes à devenir citoyennes, apprendre les règles, le respect, etc., etc. On peut se servir soit juste de sport loisir, mais on n'est pas du tout opposé à une pratique compétitive non plus. Hein.
Ça s'adresse aux jeunes de quel âge en fait ?
Alors justement, ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, et c'est pour ça que ce n'est pas que du sport scolaire, ça s'adresse à tout le monde en fait. En gros, je l'ai regardé un peu hier par curiosité, le plus jeune de nos licenciés doit avoir 4 ans en gros. Et le plus vieux, je ne l'ai pas regardé, mais on peut imaginer qu'il y ait des personnes de plus de 60, 70 ans qui sont encore licenciées à l'UFOLEP. Ça dépend de la pratique et là où on est développé dans ce département, en fait.
D'accord. Vous mettez en place des championnats, des choses comme ça ou...
Oui. Alors, suivant les sports, on met en place des championnats.
Donc,
alors,
quels sont les sports
Les sports
qui sont pratiqués.
Tous les sports pratiqués. Alors, au niveau national, je ne vais pas vous le dire, parce qu'en gros, au niveau national, il y a presque tous les sports de représenter à l'UFOLEP. Au niveau Lozère, on est très développé. Je vais vous donner que les principaux sports aussi. Hein. Donc, très développé en foot. notamment dans la co-gestion des écoles de foot.
C'est pas toutes les tranches d'âge.
Non, voilà, c'est juste les écoles de foot. En gros, pour ceux qui s'y connaissent, c'est U7, U9, U11, U13 et un petit peu de U15, c'est-à-dire jusqu'aux 15 ans, quoi, en gros. Voilà. On a aussi dans ce sport le foot vétéran depuis quelque temps. Après, on a de la voiture.
C'est-à-dire ceux qui sont nés avant 35, c'est ça ?
Foot vétéran, non. Ils peuvent jouer, mais il n'y a pas que, quoi. Non, un vétéran, plus de 35 ans.
Plus de 35 ans, d'accord.
C'est tôt pour un vétéran.
C'est des jeunes vétérans.
C'est ça. Voilà. Bon, normalement, les vétérans en UFOLEP même sont à partir de 40 ans, mais en Lozère, on a ouvert jusqu'au 35-40 ans. Voilà. Après, on a tout ce qui est gymnastique sportive, automobile, escalade, qigong. Oui, qigong, une sorte de...
Ça se mange pas, non.
Capoeira, etc.
Moi, j'aimerais revenir sur le foot, par exemple, parce que, en gros, vous êtes en concurrence avec la Fédération française de football et tous ces clubs, ou pas. Vous êtes là pour ajouter un plus. Je vois pas ce que, en fait, la différence entre ces deux structures.
Nous ne sommes pas en concurrence. Malgré que, bon, historiquement, en Lozère, les écoles de foot ont toujours été gérées par l'UFOLEP.
Voilà. Initiées et gérées par l'UFOLEP.
Bon, depuis quelques années, la FFF, par l'intermédiaire de la DDFL, co-gère avec nous ces écoles de foot. Donc, on va dire que en Lozère, ça se passe bien. Nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes plutôt en
complémentarité.
Complémentaire, puisque chacun, un petit peu, on s'est réparti un peu les rôles, chacun gère son un domaine, voilà. Donc on est plutôt complémentaire. Mais c'est vrai que sur du sport complètement traditionnel, avec des pratiques compétitives et autres, c'est plutôt aux fédérations délégataires de les gérer. Mais le fait d'être en UFOLEP, on permet aussi certaines pratiques propres à notre département aussi, où il n'y a quand même pas...
Puis c'est lié aussi à l'encadrement, c'est-à-dire on a beaucoup de bénévoles, les gens qui s'en occupent ne sont pas des salariés, des clubs, que l'objectif, je pense, c'est aussi d'être dans une dynamique de découverte,
pas forcément de
championnat,
de compétition,
même si ça en fait un peu partie. Hein.
Et de l'ouvrir à tous, normalement, pas de faire de l'élitisme ou de la sélection qui va se faire.
Mais à partir des U15.
Voilà, plus tard.
Du 13, du 15.
Voilà, sur les clubs de foot traditionnels, par exemple, on sait qu'il y a entraînement souvent le mercredi, match le samedi. Comment ça se passe à l'UFOLEP ? C'est le même principe ?
C'est le même principe, mais pas partout. En fait, c'est comme le disait Nicolas, c'est encadré par des bénévoles. Donc, les entraînements le mercredi, oui, s'il y a du monde pour les encadrer. Les entraînements peuvent être des fois le soir ou ne pas y en avoir. Dans certains petits clubs, le foot se résume au samedi après-midi. Et en plus, dans certains petits clubs de notre département très reculés, avec de la neige en hiver, le foot se résume souvent au samedi après-midi, en automne et au printemps. C'est pour ça que la complémentarité aussi avec la DDFL permet une gestion aussi de pratiques de futsal pendant la trêve hivernale et voilà, d'essayer d'ouvrir la pratique avec les particularités de notre département.
D'accord. Vous avez combien de licenciés sur la section UFOLEP ?
D'associations et de licenciés.
Alors, il y a deux ans, je remonte à deux ans, vous allez voir pourquoi. Il y a deux ans, nous avions en gros 65 associations affiliées à la fédération et plus de 2600 licenciés. Et l'an dernier, nous sommes tombés à 52 associations et 2150 licenciés. Donc on remarque tout de suite, là, en faisant des chiffres, une perte de 13 associations et 500 licenciés. Alors ça, c'est dû à un autre sport, en perte de vitesse, on va dire, en Lozère, en perte de vitesse un petit peu nationalement aussi, c'est la moto. Nous gérions aussi un gros championnat moto sur le département, donc un championnat UFOLEP.
Qui n'a rien à voir avec... Avec ce que gère le trèfle ou
qui n'est le trèfle, non, c'est la FFM, Fédération française de moto, donc, mais le motoclub lozérien qui gère le trèfle est affilié à la FFM et aussi à l'UFOLEP pour les écoles de moto notamment. Donc le championnat avec il y a eu certains problèmes d'assurance, en tout cas les assurances maintenant pour se couvrir ont augmenté leurs tarifs aussi bien au niveau tarif de la compétition, tarif des assurances pour la licence, etc. etc.
Parce qu'il y a eu des accidents mortels qui ont été
mortels ou voire des fois des gros handicaps, lourds handicaps avec gérer la suite, la vie de tous les jours quotidienne pour ces personnes. Donc, explosion des tarifs assurance et nous, pour conséquence, une grosse perte en nombre de licenciés. Voilà. Et la disparition du championnat aussi. Disparition du championnat.
Parce que le championnat, c'était combien de courses ?
Le championnat, en tout, en Lozère, c'était, on va dire, 6-7 courses. 6-7 courses avec environ sur chaque course, en comptant les enfants et tout. Les grosses courses, c'était 250-270 participants qui venaient.
Et donc là, sur ces courses, vous faites quoi ? Vous faites les inscriptions ? Vous faites le chronométrage ? La remise des... vous faites tout ou...
Non. Sur cette course, nous, on faisait, bon, mais ça, c'était propre un petit peu à notre département, on dépannait d'un point de vue matériel et chronométrage, donc on gérait le chronométrage. Les inscriptions, c'était plutôt les clubs, et puis on gérait le championnat, c'est-à-dire les points des participants et une remise des prix en fin d'année. Voilà. On chapeautait le championnat, et chaque association gérait plutôt son épreuve. Et on donnait un coup de moins par du chronométrage sur chaque épreuve.
Donc sur la moto, en fait, vous avez arrêté ce championnat, mais vous faites autre chose comme activité ?
Ouais, donc sur la moto, les adultes, on va dire, et tout ce qui était championnat se sont arrêtés, mais on a gardé 4 écoles de moto, donc il y a 4 écoles de moto en Lozère, c'est pas beaucoup 4 écoles de moto, mais...
Donc il y en a une sur Mende, une à Chanac ?
Non, une sur Mende, une au Massegros,
oui.
Une à Chirac-le-Monastier et une à Saint-Chély, voilà, mais ça représente environ 150 à 200 enfants, quoi. 250 à 200 licenciés, mais qui ne trouvent pas non plus énormément de choses à faire, puisqu'ils participaient, les plus vieux d'entre eux participaient à ces courses aussi. Maintenant, ils n'ont même plus ce réinvestissement.
D'accord, les activités proposées, en fait, doivent être complètement différentes suivant les départements. Je suppose qu'en Seine-Saint-Denis et en Lozère, on ne propose pas les mêmes activités.
Ils font pas de course de moto, déjà, en Seine-Saint-Denis.
Il n'y a pas d'escalade en Seine-Saint-Denis. ou...
C'est du scooter.
C'est très vrai. C'est d'autant plus vrai qu'en plus, par rapport à ce que je viens de dire, c'est un lien, à mon sens, ça, c'est que mon avis, mais il y a deux types de départements et deux types de fédérations en Ufolep. Il y a les fédérations plutôt rurales, on va dire, comme la Lozère, et les fédérations très urbaines. Type Seine-Saint-Denis, mais je ne connais pas trop, mais par contre, je connais beaucoup l'Hérault. L'Hérault, le comité UFOLEP de l'Hérault a plutôt tendance à travailler à Montpellier, dans des quartiers, et faire un petit peu du sport société, ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça en UFOLEP, du sport société, quartiers qui sont connus, un petit bar, la paillade, etc. En Lozère, on n'a pas trop de ce quartier, pas trop de ce public, donc on fait plutôt du sport traditionnel. Donc vraiment
du sport nature. Hein.
Du sport nature, énormément. Ouais.
Les activités évoluent, il y a des adhérents qui vous demandent d'ouvrir de nouvelles activités ?
Oui, de plus en plus. Ce que vient de dire encore une fois Nico, là, on se tourne de plus en plus vers le sport nature, et donc de moins en moins vers le sport mécanique. Là, mais ça, c'est pas voulu, mais en tout cas, c'est quand même une conséquence. Le sport nature, type les trails, toutes les courses de ce style-là. Une nouvelle activité aussi qui se développe beaucoup, qu'on commence juste à toucher un petit peu en UFOLEP, mais qui se développe d'une manière générale, c'est tout ce qui est slackline.
Ouais, ça marche beaucoup.
Voilà, ça
ouais.
Marche beaucoup, on en voit beaucoup. Donc tout ce nouveau type d'activité se développe pas mal.
Il ne sait pas ce que c'est, Nico.
Moi non plus.
Tu marches sur un fil, en fait.
Je ne sais pas ce que c'est, je suis en train d'en faire avec mon fils.
Ah, pardon.
Ah, s'il nous écoute d'ailleurs, bonjour.
Voilà, donc tout ce genre d'activité,
c'est une sangle, en fait, entre deux points, qui est tendue et à 30 ou 40 cm du sol, et sur lequel on
fait très un haut, il y a le record du monde qui a été...
Ouais, on s'entraîne à 40 cm, et voilà. Puis après, on peut la mettre à...
Ils appellent ça, après, de la high line.
Ouais,
c'est pas tout à fait pareil.
Et vous, ça vous oblige à vous former aussi à chaque fois ? Comment ça se passe ?
Ouais, alors ça nous oblige, dans un premier temps, à nous positionner. C'est-à-dire que l'UFOLEP décide de se lancer dans cette pratique et la norme, enfin, on va dire, accompagne la pratique. C'est-à-dire que l'UFOLEP, il y a 2 ou 3 mois, a sorti un cahier pédagogique sur la slackline, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, en fait. C'est quel intérêt pour une association qui se crée, qui a envie de faire ça, une association de jeunes ? Je pense à une association qui veut se créer, avec Canette, d'ailleurs. Un jeune, là, de Nurit, qui, lui, est un spécialiste et qui en fait un peu partout, et qui, peut-être, aura envie de créer ça. Donc, quel intérêt il aurait à venir à l'UFOLEP Alors, pour créer son association ou développer son activité.
Alors, l'UFOLEP va l'aider, une fédération d'une manière générale va l'aider en lui proposant une licence, et dans cette licence, il y a une assurance. Donc, c'est déjà.
Une couverture assurantielle,
ce qui est déjà pas mal. L'UFOLEP peut l'aider aussi au niveau matériel ou aide de matériel.
Puisque vous investissez dans du matériel,
c'est on peut investir dans certains matériels et après le mettre à disposition ou le louer. Enfin, bref, on peut aider comme ça. On peut aider aussi sur de l'appui administratif, on va dire, aide technique. Moi, je suis là aussi pour ça, pour aider à remplir des dossiers, faire des démarches, etc. Et l'UFOLEP, l'avantage de l'UFOLEP, c'est qu'aussi on peut avoir à mon avis, c'est le plus gros avantage, on peut avoir une licence, une démarche pédagogique dans un premier temps, et une licence multisport. C'est-à-dire que souvent, ces nouvelles pratiques, slackline, trail, etc., ils font plusieurs pratiques sportives. Donc, avec une licence, ils peuvent être licenciés dans plusieurs pratiques sportives, ouais, au lieu d'aller dans 3-4
fédérations. Slackline, Rightline.
Et oui.
Tu peux faire les deux.
Ouais. Nicolas Blanc, on aurait pu faire de la musique pour les instants sonores sur une slackline. Hein.
Oui, pourquoi pas, si ça sonne.
Surtout que ça vibre.
Ça devrait sonner, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Hein.
Ça fait un son avec le vent comme ça.
Il faut en archer.
Comment on peut se renseigner sur ces activités? Je passe un peu à la fin de l'interview, on a encore beaucoup de choses à dire, mais vu que vous avez énormément d'activités, comment on retrouve toutes ces informations, de savoir qu'est-ce que vous proposez, comment on peut faire pour avoir plusieurs licences, etc.
Alors tout ça c'est simple, le mieux c'est dans un premier temps à mon avis si on veut avoir des renseignements assez rapides, assez concrets, c'est de téléphoner, donc l'UFOLEP c'est le même numéro de téléphone que la Ligue d'enseignement. Hein.
04 66 49 00 30.
Voilà, merci Nicolas. On a des mails, un site internet www.fol48.org où il y a déjà quelques renseignements, informations, etc.
Il y a des activités qui sont proposées
sur votre site. Il y a pas mal d'activités qui sont proposées pour l'instant, mais on n'imagine pas forcément tout ce qu'on peut faire quand même parce que. À l'écrit sur un site, c'est dur de mettre toutes les infos.
C'est difficile, il y a beaucoup plus, il vaut mieux appeler.
Faut prendre rendez-vous avec vous.
Et encore le mieux, c'est ce que j'allais finir par ça, c'est prendre rendez-vous et de me rencontrer, parce que c'est quand même là où les échanges, c'est le...
Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui est une représentation nationale. Hein, il y a un comité national de l'UFOLEP. Oui. Et donc, il y a des pratiques qui sont extrêmement variées, surtout le plan national, d'après ce que j'ai lu.
Oui, les pratiques sont extrêmement variées, ce qu'on disait tout à l'heure. Il peut y avoir deux départements qui n'ont quasiment aucune pratique en commun. Ouais. Nous, quand on travaille régionalement, justement, on a du mal à mettre. On n'arrive pas facilement à se trouver une pratique en commun régionalement aux 5 départements.
Oui, il y en a qui sont sur du rugby, il y en a d'autres qui sont sur du tambourin, il y en a qui sont sur des tas de pratiques, la crosse québécoise.
Du coup, il y a des championnats de France UFOLEP par activité.
Mais il faut surtout pas appeler ça championnat de France. Ah. Championnat de France, c'est réservé aux fédérations délégataires.
D'accord.
Nous, on a des championnats nationaux.
D'accord.
Mais pas de France.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Voilà.
On connaît la difficulté dans notre département de toucher tout le territoire avec ces actions. Vous arrivez à être parfois
sur
proposer des activités sur tous les cantons.
Ouais, à peu près. Bon, on en a perdu un ou deux, mais on va dire qu'on a une couverture. Il y a 25 cantons en Lozère, on a une couverture sur 20-21 cantons, à peu près. Bon, les écoles de foot nous aident bien à couvrir tous ces cantons. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, oui. On est présent à peu près sur tout le territoire. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fédés voisines ou que je connais. Voilà. Donc là, on arrive à toucher à peu près tout le département, du milieu urbain, lozérien en tout cas, Mende, au milieu hyper rural.
Au domaine des Boissés.
Voilà.
Par exemple.
Alors, sur le programme à venir, vous avez pas mal de rencontres, vous en avez eu pas mal.
Ouais,
vous allez avoir.
On est en plein dans la grosse période en fait, le printemps. Bon, un peu comme toutes les fédés, comme tous les sports, mais même aussi comme les associations culturelles, un petit peu comme tout le monde. C'est souvent là, il commence à faire beau, tout le monde sort, hein, on fait tous pareil. Donc on vient d'avoir un gros programme et il nous en reste un. Je vais un petit peu annoncer donc la suite des événements. Donc le 14 juin au Pont de Montvert, nous aurons la journée rassemblement des coupes U9 et U11 pour le football. Le lendemain, le 15 juin, à Mende, le rassemblement des écoles de moto. Le même jour, à Villefort, le kart cross de Villefort, hein, qui est
le kart cross
en fait, c'est sur une piste en terre. Ce sont des karts qui font la course. Des karts, c'est un petit peu comme des buggies, voilà. Si pour donner une
d'accord,
image un
quatre roues motrices.
Voilà et voilà
des petits
véhicules des petits comme véhicules. Ça, mais pas admis.
Ils sont limités en cylindrée.
Oui, alors je ne suis pas spécialiste du sport mécanique.
Mais alors, c'est
800 mètres cubes.
Non, je vais vous dire des bêtises, donc je ne vais pas le préciser, mais ils sont limités.
Enfin, ça dépote quand même, parce que...
Ouais. Sur des petites pistes comme c'est impressionnant. C'est à voir aussi, je pense, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Alors, la piste, elle est à la gare de Guérin.
Si on se loupe, hop.
Voilà, elle est juste à côté là, de la gare de Guérin, c'est à voir. Voilà, c'est assez impressionnant.
Ouais, et puis le site est magnifique.
Et le site est magnifique, ouais. La piste, et on peut en profiter pour visiter le site pour certains qui connaissent pas de la gare.
Mais de toute façon, toutes ces activités sont ouvertes aussi au grand public. Je pense au foot vétéran le 14 juin, à la coupe, on peut aller voir même si on fait pas du foot, quoi.
Voilà, c'est ouvert au grand public, il y a pas de souci. C'est pour ça que
en spectateur, c'est ouvert.
Ah oui, bien entendu, ouais. Un spectateur.
Le kart cross, on se pointe pas avec son casque, salut.
Non, le kart cross, on va pas pouvoir venir en faire comme ça sans licence et tout, ça, c'est sûr. Et donc, pour finir juste sur le programme, donc le foot vétéran, c'est pas le 14 juin, c'est les écoles de foot le 14 juin. Le foot vétéran, ce sera un petit tournoi sixte, voilà, ou le week-end du 20 juin ou celui du 27 juin, on n'a pas encore précisé la date. Et dernier rendez-vous, donc du 7 au 11 juillet, on a un rendez-vous régional qui s'appelle le Playa Tour.
Voilà. Alors ça marche comment, le Playa Tour ? Dans Playa Tour, il y a Tour, donc ça veut dire qu'on tourne.
Il y a Playa.
Voilà. C'est ça ce qui nous intéresse.
C'est plusieurs à trouver en Lausanne.
C'est assez dur, hein, le Playa Tour en Lausanne.
Ça se passe où ?
Alors ça se passe. Déjà, c'est un mouvement qui part du national, de l'IFOLEB national, et qui a plein d'étapes dans toute la France. Alors principalement au bord de la mer, hein, ou des mers, hein, des océans, mais aussi certains départements qui en organisent. Je ne veux pas dire de bêtises, mais la Creuse ou comme ça, et qui font autour de plans d'eau. Voilà, pour rester dans l'esprit Playa. Donc pour nous, c'est une rencontre régionale qu'on fait à Port-le-Cat, donc dans le 11, hein, dans l'Aude. Ça regroupe environ 500 à 600 enfants de toute la région.
Toutes les fédérations de l'ancienne carte de France régionale, c'est ça ?
Voilà, de l'ancienne région.
Feu-Langue-de-Crucian. Enfin, c'est pas voté.
Donc on regroupe 5 à 600 enfants, hein, quand même, sur... Alors avant, on le faisait, mais c'est un peu compliqué.
Sur 3 jours ?
Voilà, c'était sur un séjour de 3 jours. Là, on va faire 2 séjours de 3 jours parce qu'on a changé de lieu d'hébergement. Voilà. Donc on fait plein de sports de plage, hein, sports de baignade, sports de plage.
Como Brésil.
Voilà, ouais. Beach soccer.
Comment les descend tous ces enfants ?
Comment on les descend ?
Ouais.
Alors là, ça concerne qui, voilà, en fait ?
Alors, on s'adresse justement pas forcément à des licenciés UFOLEP. Donc on essaie de toucher un petit peu d'autres publics. Il faut quand même avoir, puisque c'est un séjour, il faut avoir un encadrement. Pour ceux qui connaissent des BAFA ou des BAFD, donc on ne peut pas s'adresser non plus forcément qu'aux associations, donc, parce qu'ils n'ont pas forcément les salariés pour ou l'encadrement pour. Donc on s'adresse ou aux mairies, aux piges, aux maisons des jeunes, etc.
Les piges, c'est quoi ?
Alors, les piges, nous en Lozère, on n'en a pas, c'est plutôt dans les PO où il y a pas mal de piges. En Lozère, nous, on s'adresse au service jeunesse des mairies. Et donc là, pour l'instant, qui participe, c'est Mande et service jeunesse de la mairie de Mande et de la mairie de Saint-Chély.
D'accord. Voilà. Qui viennent avec leurs animateurs, c'est ça ? Une cinquantaine d'enfants.
Et qui font les inscriptions, et une cinquantaine d'enfants en tout. En gros, on se répartit un petit peu des... Parce que c'est énormément demandé. On fait une répartition des personnes sur les 5 départements. Et la Lozère, pour l'instant, on a droit, entre guillemets, à 50 participants. Donc, on a 50 participants. Si un jour, ça devait...
Qui descendent en bus.
Qui descendent en bus, ça fait un bus. Donc, c'est intéressant d'être à 50 plutôt qu'à 75. Quoi. Essayer de limiter les frais. C'est le format d'un bus. Donc, voilà.
Donc, ils descendent pour 3 jours. Ils vont faire un certain nombre d'activités, de découvertes, de rencontres. Il y a aussi un peu de culture, non ?
Ouais, il y a un petit peu de culture. Il y a beaucoup aussi, là, ce que je n'ai pas précisé, beaucoup d'échanges et d'activités aussi, on va dire, plus éducatives, de discrimination,
de
lutte contre la discrimination, d'informations sur ce qui peut être addictif, les drogues, l'alcool, etc. On essaie aussi de...
Oui, c'est très ouvert. C'est ce côté citoyenneté qu'on retrouve dans l'UFOLEP, et de formation des enfants et des jeunes adultes.
Voilà, exactement. Ce qu'on essaie de développer, de mettre en place. Alors, dans des formats comme ça, oui, c'est facile. Dans d'autres formats, c'est un petit peu plus difficile, mais on essaie en tout cas de tendre vers ce principe.
Au niveau des bénévoles, vous en sortez ? On sait que c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. Vous êtes en constante recherche de personnes pour vous aider.
Oui. Oui, les bénévoles, c'est une denrée rare, mais pas si rare que ça quand même en Lozère. Je pense que je pense vraiment qu'en Lozère, et pour en avoir parlé avec beaucoup de monde, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord, qu'on reste quand même un petit peu un monde à part sur ce point-là. Parce que alors, c'est sûr que l'UFOLEP sans les bénévoles, il n'y aurait plus les associations, et sans les associations, l'UFOLEP, c'est plus rien, ça c'est sûr. Et il y en a encore beaucoup quand même qui donnent de leur temps. On les voit le samedi sur les bords des terrains, des circuits,
c'est énorme, le boulot,
des stades, des gymnases.
On le dit pas
assez etc.
souvent, mais sur, je vois là, sur les déplacements aussi, le nombre de gens qui se déplacent avec les enfants et qui passent le samedi ou tout le dimanche, qui partent à 8h du mat, qui rentrent à 7-8h.
Oui, c'est vraiment des personnes qu'il faut mettre en avant. Parce que
c'est le boulot qu'il fait.
Surtout que suivant les sports en UFOLEP, pour citer la gym, la moto, deux gros sports dans notre département, on leur demande en plus souvent à ces bénévoles de se former, d'avoir certains diplômes d'animateur, d'encadrement, ou même d'officiel, de juge, d'arbitre, de directeur de course.
Parce qu'il y a tout un plan de formation que vous organisez.
Il y a tout un plan de formation. On a plein de formations qui sont faites au niveau régional. C'est géré par notre TR, enfin, notre équipe régionale. Et on leur propose des formations dans divers sports. Justement, un tronc commun pour toutes les activités, puis après des spécialités d'animateur, d'officiel, selon l'activité. Quoi.
Avec une législation très contraignante.
Très contraignante, que ce soit dans certains sports comme la gym, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de risques d'accident en gym, et puis après il faut aussi juger, c'est assez pointilleux on va dire. Dans certains sports aussi comme la mécanique qui deviennent très très dangereux, les sports mécaniques comme la moto ou l'auto qui deviennent très dangereux et qu'il faut qu'ils soient encadrés.
Le VTT de descente.
Le VTT, etc. Ouais. Là, il y a beaucoup de... Voilà. Et comme on a beaucoup de jeunes, ce que j'ai pas... À peu près 2/3 de nos licenciés sont des enfants, il faut bien les encadrer.
Mais c'est super, hein, ça donne un beau panel de ce que vous faites au niveau de l'UFOLEP, le nombre de licenciés, l'activité. C'est vrai que c'est une structure dont on entend parler occasionnellement, qui travaille beaucoup dans l'ombre des associations. Hein, vous travaillez beaucoup en partenariat pour aider. Il faut soulever
ça. Tout le monde connaît le nom. Et après, si, je suis sûr que si vous demandez aux personnes de définir ce qu'est l'UFOLEP, au final, les gens ne le savent pas.
Ouais.
C'est compliqué.
Alors, c'est vrai que la particularité, quand même, c'est qu'il y a une convention avec l'État qui est passée, le ministère de l'Éducation nationale, qui a permis d'avoir des détachés, des postes de détachement, pour financer l'activité. En partie, bon, ça finance pas tout, hein. Ça finance une partie de l'activité, ça couvre pas l'intégralité des salaires, mais ça permet quand même d'aider et d'avoir un maillage territorial énorme, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'adhérents partout en France, quoi.
L'UFOLEP en France, je sais plus que plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'est 300 000 à 400 000 licenciés. Donc c'est une des grosses
fédérations
françaises.
Affinitaire.
C'est la plus grosse fédération française, la fédération affinitaire, mais elle fait partie aussi, je ne l'ai pas vérifié, mais ça ne doit pas être loin d'être du top 10 dans le nombre de, nombre de licenciés sur l'ensemble des fédérations sportives.
Voilà. Plus que le foot.
Non, le foot, c'est 2 millions quand même.
Bon,
il reste du boulot à faire, à convaincre, voilà, que c'est un bon outil de développement local, de lien social. Et merci beaucoup.
Et merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler un petit peu de l'UFOLEP. Merci.
Merci, on va faire une petite coupure musicale.
Avec Jean-Louis Aubert.
Avec Jean-Louis Aubert, et on se retrouve tout de suite avec les instants sonores.
Tu croiseras aussi la trahison. connaîtra les chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison.
FM Le Mag.
De retour sur ce 72e magazine avec les instants sonores et Nicolas Blanc que nous accueillons, qui va nous parler un petit peu de cette semaine particulière. Une pause, vous avez appelé ça quoi, comment?
Pause concert
entre Mende et Saint-Enimi, à Mende et à Saint-Enimi. Troisième édition, c'est ça, Nicolas?
Troisième édition sous cette forme, oui. En fait, les instants sonores, c'est l'origine des instants sonores, c'est les nuits électroniques. On avait développé sur Langogne avec l'association Akioi. Et c'est vrai qu'en 2010, avec la mise en place du nouveau projet artistique sur les scènes croisées, on a développé tout un projet d'accompagnement de la compagnie de Franck Vigroux, compagnie d'autres cordes, dans une forme de ce qu'on appelle une résidence association sur le long terme, donc sur plusieurs saisons, de 2010 à 2014. Et dans le cadre de cette résidence association, il nous a semblé intéressant de créer un temps fort autour de
un événement
autour de l'univers artistique qui est brassé par Franck, par sa compagnie, qui est donc un compositeur et un musicien installé en Lozère. Et donc on s'est dit que c'était bien d'avoir un moment, un temps fort, un temps de visibilité pour ces musiques qui sont assez peu connues, donc sur lesquelles on avait envie aussi de donner un coup de projecteur. Donc,
alors ces musiques, c'est quoi? C'est de la musique électronique? C'est de la musique particulière, en fait? Il n'y a pas vraiment d'appellation, si?
Si, on classe ça dans le... Oui, la grande appellation, c'est la sphère des musiques électroniques. Ouais. Après, l'événement, il n'est pas que là-dessus, il est surtout sur la découverte de la musique d'aujourd'hui, qui s'écrit aujourd'hui, qui se compose aujourd'hui, et qui se joue avec les instruments d'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les instruments d'aujourd'hui, bon, il y a les instruments traditionnels, mais il y a de plus en plus de compositions et de ce qu'on appelle donc toute la lutherie électronique, ordinateur ou autre, qui permettent aussi de composer de la musique.
Alors là, on va écouter un petit peu un fond de cette composition.
Allons-y.
On continue, Nicolas Blanc, de parler de musique minimaliste.
Oui, c'est encore une appellation en vigueur. Oui, il y a différentes appellations. Hein. On parle de musique électronique, électroacoustique.
Alors là, ce qu'on entend, en fait, c'est Nadia.
C'est Nadia Radzimandressi, utilise un instrument qui est relativement ancien, qui est un des premiers instruments de musique électronique, qui s'appelle l'onde Martenot, qui a été créé en 1925. un instrument assez peu connu.
Qui ressemble à un piano.
Voilà, c'est ça, c'est un genre de piano, mais qui a une...
Avec un vibrato.
Voilà, une sorte de vibration qui se rapproche un peu de la scie musicale, en fait.
D'accord.
Et donc, cette interprète, Nadia, donc, est ondiste de formation, ils sont assez rares, et a transposé un certain nombre d'œuvres pour Land Martenot. Donc là, c'était une adaptation d'une composition de Stockhausen.
D'accord. Comment on arrive en fait à créer, enfin comment on va vers cet univers en tant qu'artiste ? C'est peut-être pas.
Ouais, il faudrait poser la question. Poser
la question à un artiste,
je prends le parcours de Franck par exemple, qu'on connaît bien, puisqu'on travaille avec lui depuis de nombreuses années. Il est guitariste de formation. Il a d'abord été accompagné des groupes, etc.
Il vient plutôt
du rock en fait. Et puis, je pense qu'à un moment, il y a une rencontre soit avec des musiques, soit avec un univers, soit avec une lutherie particulière, qui fait qu'à un moment, il se passe un déclic. Avant d'être dans la musique électronique, il était dans la musique improvisée. Donc, il y a une forme de chemin comme ça. On passe de la musique écrite à la musique improvisée. Et puis, après, on cherche à travers la musique improvisée des nouveaux sons. On détourne l'instrument de sa fonction première, qui est de jouer des notes. Et du coup, peut-être qu'on s'approche petit à petit d'une nouvelle lutherie, et puis là, on tombe sur la musique électronique, et on s'en empare, et on s'amuse avec, et on produit du son.
Oui, j'ai surtout le sentiment qu'il y a un côté très ludique, et un côté très jouissif de la découverte, en fait, comme on peut le faire dans d'autres domaines, de l'artisanat, où on va explorer d'autres formes, d'autres constructions, comme on le voit en architecture. Alors, au début, on est surpris, on n'est pas... Le public peut être un petit peu
désorienté,
voilà, chercher le mot. Mais est-ce que, donc, en fait, ces instants sonores contribuent un petit peu à faire vivre ces musiques qui existent et dont on parle très peu, ne serait-ce qu'à la radio ou à la télé, ou même sur Deezer, tout ça, on trouve très très peu de ces morceaux-là. Hein. Et donc, c'est une façon de donner à entendre aux gens, au public, et à les former sur ces musiques-là.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est des musiques qui ont besoin d'être vues en concert, en fait. Voilà, moi, j'écoute pas de la musique électronique chez moi, dans mon salon. Mais par contre,
que dans 50 ans, on le fera, non ?
Peut-être, il y en a qui le font. Il y en a qui voilà.
Puisqu'il y a 50 ans, on n'écoutait pas du rock. Il y a 70 ans.
Ça reste compliqué comme musique à écouter chez soi.
C'est des musiques qui sont basées sur l'écoute, et c'est vrai que voilà, quand on est face aux musiciens dans un autre rapport, dans un rapport aussi collectif en tant que avec plusieurs personnes autour, voilà, je trouve que ça prend, enfin, en tout cas pour moi en tant que spectateur, ça prend tout son sens en fait. C'est là où du coup on est disponible pour, en fait, et je pense que c'est des musiques où à un moment il faut avoir de la disponibilité pour ça, et rien de tel d'avoir cette disponibilité que quand il y a l'artiste en face. Et ce qu'on a aussi recherché à travers les instants sonores, c'est un moment de l'installer dans des endroits un peu décalés. C'est vrai que c'est des musiques un peu atypiques. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, puisque ces formes sont atypiques, investir des lieux qui sont pas forcément dédiés à l'écoute musicale. Bon, je pense là au domaine des Boissés, mais on a investi des granges, on a fait des trucs un peu rigolos sur les 3 dernières années, des chapelles.
Parce que justement, vous avez un spectacle, le chant du filament... qui est une installation, et moi je me demandais, à la limite, si on était dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art contemporain, où on se situait au final.
Alors là, sur ce projet-là, on est à la croisée des deux, c'est une installation sonore, une installation plastique et sonore.
Parce que ça regroupe ce que tu disais, qu'il fallait le voir peut-être en spectacle plus que de l'écouter sans avoir de visuel devant soi. On regroupe un peu ce principe d'art musical.
Oui, là on est dans une forme d'art contemporain pour ce qui concerne ce projet. C'est vrai que Nicolas Villeneuve, il est éclairagiste de formation par exemple, donc il a plutôt une approche visuelle du travail, et il a souhaité rendre hommage au filament à tungstène qui était longtemps utilisé, enfin qui l'est encore, mais de moins en moins utilisé au théâtre pour les projecteurs, pour les projections, qui est de plus en plus remplacé par les nouvelles technologies à basse consommation, les ampoules à LED, etc. Et il se trouve que ce filament, il a la particularité de produire un son, un tout petit grésillement qui est propre à chacune des lampes. Et donc il a eu l'idée d'en faire...
La carte d'identité de la lampe.
C'est ça. Il a eu l'idée d'en faire une installation, d'installer une cinquantaine d'ampoules, un plafond d'ampoules, plongé dans le noir et qui met en activité et qui produit en fait une forme de concert, un concert de son et concert à voir du coup. Donc voilà, c'est des sets de 12 minutes, on est vraiment là dans le principe de l'installation plus que du concert en fait.
C'est pas trop difficile d'accès quand même. On entend souvent la critique qu'on entend c'est trop intellectuel. C'est pas trop difficile d'accès.
Comme l'art contemporain.
Oui, comme l'art contemporain. Mais la musique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est populaire quand même. C'est quelque chose de populaire, la musique.
Les tableaux aussi.
Les tableaux aussi, mais c'est peut-être plus difficile de comprendre un tableau, même si c'est un tableau de Picasso, de ses premiers âges, de sa première jeunesse, où il faisait des caricatures, où c'est joli.
Alors,
c'est moins difficile d'accès, c'est plus difficile d'accès que la musique qu'on entend du Fréhel, qui a toujours existé en France.
Je pense que c'est plus compliqué parce que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Donc forcément, une chose qu'on n'est pas habitué, on peut avoir la crainte de pas comprendre.
Mais je crois que c'est ça, comme en fait, tout... le vrai problème.
Ouais.
C'est plutôt un problème de compréhension parce que quand on va avoir des expos, alors c'est ce qu'il disait Soulage à Rodez, il disait, mais les gens viennent pour comprendre. Les gens viennent, cherchent à comprendre sans arrêt quelque chose. Cherchent un sens là où il n'y en a pas.
Faut pas forcément chercher à comprendre,
un sens. C'est l'art, le rapport à l'art,
c'est des sensations directes.
C'est des émotions.
Là, on vient dans des sons. Pour moi, ça me projette dans un univers un peu futuriste. Et puis, ça m'a fait penser à des films d'animation que j'ai vus il n'y a pas très très longtemps, qui ont repris, comme ça, des montages sonores de musique électroacoustique, de musique électronique, comme ça, et qui habille ces films de façon extraordinaire. J'ai même vu un spectacle récemment, c'était que de la musique comme ça, avec une histoire d'un chat noir. Eh bien, on est porté par ces sons, et finalement, on ne se pose pas la question du sens.
Mais c'est bien, il faut le dire aux gens qui ont peut-être peur de venir en disant « il va falloir comprendre des choses, j'ai pas envie ». Non, peut-être qu'il y a des spectacles où il faut se laisser
faire un effort de ne pas comprendre.
Oui, il faut avoir envie d'être disponible pour ça, en fait, voilà. Tout simplement.
Oui, c'est l'ouverture d'esprit.
Voilà, et se dire que effectivement, il n'y a pas forcément de compréhension particulière à avoir. Tout simplement vivre le moment et l'apprécier et apprécier aussi le cadre dans lequel on est et pouvoir rencontrer les artistes après. Je me souviens l'an dernier de rencontres tout à fait sympathiques à Boissé avec je pense au pianiste qui était là, qui avait fait un espèce de piano préparé, donc le piano était ouvert, il y avait plein de trucs dedans, il a fait son set. Voilà, ça a duré 20 minutes, les gens étaient bluffés parce que voilà, j'avais vu jouer du piano comme ça, en tout cas pour la plupart des gens qui étaient là. Et puis ça a continué, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'il a fini son set, les gens sont venus autour du piano, ont touché, puis lui il a expliqué comment ça fonctionnait, et c'est ça qui est assez chouette en fait, c'est que tous les artistes sont là en tout cas sur Boissé toute la journée. Ils font leur set qui dure 20-30 minutes, donc c'est pas non plus des écoutes très... Ensuite, on va prendre l'air, on va boire un coup, et en même temps, on se retrouve... on peut rediscuter avec l'artiste. Il y a une forme aussi de convivialité qu'on recherche en allant au domaine des Boissé, par exemple.
Alors, en plus, l'univers de ces artistes, c'est pas forcément des gens qui sont musiciens à part entière, qui ont fait des écoles. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout.
Ouais, il y a des gens...
Qui ont des parcours très, très atypiques, en fait.
Il y a les deux, on trouve les deux en fait, des gens qui sont qui ont fait des cursus classiques de conservatoire, etc., et d'autres qui sont plutôt dans une forme autodidacte en fait, qui souvent sont passés par l'instrument quand même, c'est-à-dire que
par la maîtrise de l'instrument. Là, je vois qu'il y a aussi un partenariat qui est important avec le DML. C'est peut-être dans ce sens-là aussi de sortir du cadre peut-être d'une école qui forme de futurs musiciens ou concertistes.
Oui, tout à fait. C'est un moment qui leur permet pour eux aussi d'approcher ces musiques-là dans le cadre de leur formation. Il y a deux projets avec eux. Une première partie du Quatuor Tana qui aura lieu le vendredi 13 à Mende. Donc voilà, c'est de la musique électronique, mais on accueille aussi des formes classiques. Un quatuor à cordes, le jeune Quatuor Tana qui nous vient de Belgique. Et en première partie se produira l'ensemble Épisode, qui est un quatuor de saxophone emmené par Alain Desvoix, enseignant de saxophone à l'école de musique. Et l'autre projet qu'on conduit avec eux, c'est la carte blanche qu'on leur donne sur le domaine des Boissé le dimanche 15 juin, à partir de 13h30, où là, effectivement, enseignants et élèves se retrouvent et vont nous proposer un petit parcours dans Boissé autour d'œuvres qu'ils ont appris dans l'année, mais aussi qui ont la particularité cette année, pour certaines, d'être composées par les enseignants. Hein, qu'on D'accord. aura une œuvre de Bob Wander, qui est enseignant de guitare à Mende, et le directeur Eric Parra, qui a composé un concertino pour violon, qui sera interprété par l'orchestre Scherzo, petit orchestre de l'école départementale de musique.
Alors on démarre le jeudi 12 juin.
On démarre le mercredi 11 avec le vernissage de l'exposition à 17h30. Hein, un vernissage ouvert au public, et puis ce sera un moment pour découvrir l'expo, et puis voilà, je profiterai pour présenter le programme, hein, 17h30, donc à la Chapelle des Pénitents. Et l'exposition, c'est ouvert à tout le monde, et l'exposition qu'on va courir jusqu'au dimanche 15 juin.
D'accord. On a le jeudi 12 juin.
Jeudi 12 juin, donc c'est l'ouverture par une forme concert de la dernière création donc de Franck Vigroux, artiste associé à la manifestation, et qui va nous interpréter. Donc c'est une collaboration avec une autre compagnie, un autre créateur qui vient plutôt du théâtre et du théâtre musical, Alexis Forestier, qu'on connaît un peu en Lozère parce qu'il a été ces dernières années programmé et accueilli à l'hôpital de Saint-Alban, notamment sur les rencontres de psychothérapie institutionnelle. Il a présenté une œuvre avec André Robillard, qui est un artiste d'art brut. Et donc, voilà, ils se sont rencontrés et ils proposent ensemble une création qui va mêler musique et texte, puisque c'est un montage de texte de deux auteurs, Walter Benjamin et Heiner Müller, des montages poétiques et en même temps une création musicale. Ça s'appelle Racloir.
Racloir.
Ça va racler.
À l'espace des anges.
Voilà. Toujours à l'espace des anges. Ouais. Le jeudi 12, et puis Franck sera en résidence de création à l'espace des anges. Il est accueilli à partir du samedi. Et on enchaînera le vendredi, donc, avec ce que je disais, avec une forme qu'on connaît un peu plus dans les formations musicales, un quatuor à cordes, le quatuor Tana, qui est un jeune quatuor qui vient de Belgique, qui est actuellement associé au Festival d'Aix et en résidence au Festival d'Aix-en-Provence, et qui va nous présenter trois compositeurs, un compositeur tout à fait actuel, Raphaël Sindot, qui est un jeune compositeur qui est né en 1975 et qui a composé deux quatuors pour cordes et bandes enregistrées, et deux compositeurs plus connus, Shostakovich et Ligeti, autour de propositions en quatuor.
D'accord. Le samedi 14 juin.
On déménage à Saint-Élimi.
Voilà, on déménage et on investit le domaine des Boissés, donc à partir de 15h.
Non, c'est pas Saint-Élimi même, c'est au-dessus de Saint-Élimi.
C'est
pour ceux
avant,
qui connaissent pas, c'est juste avant.
Direction, c'est la direction de Saint-Élimi. Voilà. Juste
à la fin du Causse, là.
Avant de descendre. Pour rejoindre le Tarn sur le Causse Sauveterre, dans un très bel endroit, qui malheureusement est fermé, et c'est un peu regrettable, mais on le réouvre pour l'occasion.
Patrimonial sur l'agro-pastoralisme.
Tout à fait, qui fait partie de l'UNESCO maintenant.
Tout à fait, ouais.
Et donc on le réouvre et on y installe voilà, une série de petites formes, des solos, des duos.
Donc il y aura Nadia...
Nadia Radimandresi
qu'on a écouté tout à l'heure.
Tout à l'heure, avec Londe Marteneau. Il y aura un hommage à... Eliane Radig, qui est une compositrice, française, voilà, qui est née en 1932, qui est encore vivante et qui a composé parmi ses nombreuses pièces une pièce qui s'appelle Kiema, qui est une forme de pièce méditative et qu'on a choisi un peu en écho au site sur lequel on se trouvait. C'est vrai que le domaine des Boissés, il y a comme ça une dimension assez majestueuse dans un environnement où on a envie de se poser et de juste contempler l'environnement qui nous entoure. Et cette pièce, c'est ça, c'est une espèce de parcours méditatif. Donc je pense que ce sera un joli moment. Elle est interprétée par Lionel Marchetti, qu'on avait déjà accueilli, notamment à la filature des calcaires pour un solo sur bande.
Elder,
une compagnie qui nous vient de Suisse.
Alors, on est plus sur de la chorégraphie.
Ouais, c'est une rencontre danse-musique avec des musiques live, musique électronique de Francisco Merino. Et un moment de...
Donc ça, ce sera 25 sur extérieur ?
En extérieur.
En extérieur,
avec le musicien qui accompagne la danseuse. Et la compagnie est amenée par la chorégraphe Cindy Van Acker, qui a notamment, pour ceux qui connaissent, collaboré avec Romeo Castellucci, qui travaille sur les chorégraphies de Castellucci, qui est un metteur en scène qui a notamment été régulièrement invité sur Avignon. Elle présente sa dernière pièce, qui est de forme assez performative. Voilà, on est sur un format assez court de 25 minutes, avec une très belle interprète, Stéphanie Bale.
Vous investissez entièrement le domaine des Boissés, ou ça se situe au même endroit et tous les artistes vont se succéder ?
Non, on essaie d'investir, de trouver au meilleur instrument, en tout cas la meilleure pièce. Donc il y a avec les extérieurs les 4-5 pièces utilisables et accessibles au public qui sont.
Et en cas de mauvais temps, vous avez une solution de repli ?
En cas de mauvais temps, nous n'avons pas de solution de repli. Sors les on va croiser les doigts. Mais depuis 3 ans, il fait beau, il n'y a pas de raison.
Un DJ après.
Un DJ Shep de Noise.
Shep Noise.
Shep Noise.
Shep Noise qui nous vient. Shep de Noise. qui est italien, d'origine italienne, et qui vit à Berlin. Et qui, donc, voilà,
Shep de Noise.
Lui, il travaille comme un DJ, c'est-à-dire il fait du mix en fait, mais il a une telle façon de faire qu'on est très proche de la musique électronique en fait.
Ouais, ça marche beaucoup à Berlin en ce moment.
C'est impressionnant ce qu'il fait avec des platines. Et on retrouvera Franck Vigro pour conclure la soirée. On finira pas trop tard, on finira vers 21h avant que. Fasse grand froid.
Et oui. Le dimanche, c'est reparti.
Le dimanche, c'est reparti. Okay. Le samedi, juste, il y aura quand même, c'est important de le dire, la restitution d'un travail pédagogique qui a été conduit par Bruno Capel et la compagnie D'Autres Cornes, qui a associé plusieurs écoles, à Mende et au Chastel, et qui a travaillé sur des cartes postales sonores. Et donc, voilà, il viendra présenter le travail. J'espère que les enfants seront là aussi. Et il présentera.
Alors, faut dire que là-bas, donc, on peut y aller le matin. On peut se restaurer là-bas ?
Oui, tout à fait. On peut y aller. Le site sera ouvert pour 15h, donc c'est d'accord. Plutôt l'après-midi oui, à partir d'accord. De 15 à.
On peut pique-niquer à midi, puis.
Voilà, éventuellement, il y a des balades qui peuvent se faire.
Il y a un repas minimaliste. Un petit pois par personne.
Voilà. Et on fait vibrer le petit pois.
Non, ce sera très bien. Les repas, c'est la pensée sauvage.
Ah oui, la pensée sauvage qu'on connaît bien. Mmh. Bonjour à Nathalie qui nous écoute, sans doute. Et donc, nous avons le dimanche 15 juin, donc la carte blanche dont on parlait tout à l'heure, avec l'École départementale de musique.
Voilà, de 13h30 à 15h.
Voilà. Donc là-dedans, on a Patrice Lafou,
Fabrice Bonny, Thomas Pongy, Loïc Loisel.
Ouais, Loïc Loisel qui est aussi pilote l'harmonie sûrement. Hein.
Ouais, et qui interprétera justement une pièce inédite de Bob Wander, enseignant à l'antenne de Marvejols notamment.
D'accord.
Enseignant en guitare. Et on retrouvera aussi les choristes, formation musicale et choristes adultes, autour de Petit Taïku de Victor Flusser. Ils sont emmenés par Nadia Besseron.
C'est un petit poème japonais.
C'est ça, une petite forme courte chantée. Et l'orchestre Scherzo de l'EDML qui interprétera donc cette première de concertino pour violon écrit par le directeur de l'école de musique, Eric Parra.
Donc là, ça démarre à 13h30 jusqu'à 15h.
Voilà, jusqu'à 15h pour cette carte blanche. Et puis on reprendra sur le programme
à 15h30.
15h30 professionnel avec donc un Polonais, Robert Piotrowicz, qui nous interprétera un solo sur un synthétiseur modulaire de type Serge. C'est un synthétiseur qui a été créé dans les années 70. Et donc il est assez pointu dans ce domaine, en musique improvisée. On aura Christine Aldenour en suivant, qui travaille, elle, sur le saxophone. On trouve là un instrument classique, mais elle en joue un peu de manière détournée.
Serge aussi.
On retrouvera Elder, qu'on avait vu la veille. On accueille la compagnie pour les 2 jours. Et on finira avec Eric M. Là aussi, quelqu'un qui travaille sur les musiques électroniques et les platines.
D'accord, un programme comme ça, assez varié, dans un site magnifique. Donc une programmation sur plusieurs jours, hein.
Ouais, on ouvre le 11, ça finit le 15, hein, donc un temps un peu ramassé. Mais,
vous faites un pass pour les 4 jours ?
Voilà, alors dans les tarifs, il y a 2 possibilités d'abonnement, soit l'intégralité du festival, soit, l'abonnement au week-end, fait, un week-end à Boissé, pour les 2 jours. Et après,
c'est le pass Saint-Élimi, 2 jours.
Voilà, c'est ça.
25 euros et 20 euros.
Et 20 euros pour les 2 jours.
Alors 25 euros, c'est quoi ? C'est tarif plein tarif
plein adulte. Tarif.
Et 20 euros, c'est.
Tarif réduit, enfants, lycéens, étudiants, chômeurs.
D'accord, lycéens, chaînes, d'accord.
Groupe, s'il y a des groupes qui
sont. À partir de 8 personnes. Donc regroupez-vous et téléphonez.
Tout à fait. Et après, formule classique à l'entrée.
Au
spectacle. On est sur les tarifs entre 12 et 15 euros.
D'accord, très bien. 4 jours pour découvrir des sons d'aujourd'hui. C'est un budget de combien à peu près un événement comme ça sur 4 jours ?
On est sur 15 000 euros pour l'artistique et avec le tout compris, c'est 30 000 euros.
D'accord.
Comme voyage technique, etc.
Et oui, ça fait vite des sous. Beaucoup de partenariats sur cette édition, comme depuis plusieurs années.
Oui, on essaie, nos partenaires traditionnels, hein, que sont l'État, la région et le département.
Qui prêtent à la fois le lieu aussi.
Aussi.
Ouais, qui ouvrent le lieu, qui met à disposition plus les financements. La ville de Mende.
La ville de Mende, bien sûr, partenaire depuis...
Je vois là l'ONDA.
Et oui, l'ONDA, l'Office National de Diffusion Artistique.
Voilà, l'ONDA qui nous a envoyé un petit mail et sur lequel on a découvert que les instants sonores faisaient partie des coups de cœur de l'ONDA pour cette année, avec un petit mot très sympathique, fort demeurant pour son directeur, puisqu'il trouve la programmation très engagée et très exceptionnelle par rapport au département, c'est ça ?
Oui, c'est un peu ça.
On va pas polémiquer, mais ça nous a fait un peu rire quand on a lu ça. Enfin, quand on est losérien et qu'on voit tout ce qui se fait depuis des décennies sur ce département de découverte. Et qu'à Paris, on est encore sur des schémas comme ça, où on a l'impression que dans les départements ruraux, on peut pas faire de la musique électronique. Et qu'on s'étonne de découvrir des événements comme ça, portés par des gens, parce qu'on a un milieu rural.
C'est un peu ça, oui. Mais c'est souvent ça. Et pas qu'à Paris, hein, parce qu'il suffit d'aller à Montpellier.
Tout à fait,
et puis
tout à fait.
C'est toujours la programmation. Regard, vous arrivez à programmer ce genre de choses. Voilà.
C'est un peu dommage cette fin, alors que c'était bien de le mettre, et que c'est un peu dommage d'être dans une forme, pas de discrimination, mais un peu quand même. Et il faudrait quand même qu'ils fassent attention à ce qu'ils écrivent, quoi. Je trouve que c'est. Voilà, mais on aura peut-être l'occasion de le
Le lait des vaches va tourner avec cette musique.
On va faire fuir les animaux des boissons.
Là-haut, c'est des brebis, hein, c'est pas des vaches. Okay. On fait du roquefort.
Paris, ils savent pas.
Hein. Ah oui, c'est vrai.
C'est ça.
Pourtant, ils mangent du roquefort, très bon. Hein.
Ouais. En même temps, ils nous soutiennent. Donc c'est...
Oui, on va pas cracher dessus. Non, mais voilà, c'était. C'est pas pour critiquer, hein, c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est perdu dans le plus beau département avec la moins grande population.
Oui, qu'on ne peut pas faire des choses audacieuses.
Et qu'on peut pas faire des choses audacieuses, intelligentes, belles, émouvantes. Et voilà, on n'attend pas des grandes villes qu'elles nous donnent des leçons.
Il y a un public pour ça, et je pense que c'est important qu'à côté d'autres manifestations, ces manifestations puissent avoir lieu.
Tout à fait,
partie de la diversité.
Parce que si on regarde dans le même constat, si on regarde ce qui s'est fait sur le Festival d'Olt, avec la programmation qu'il y a eu, qui était très engagée rock, très diversifié, on retrouve aussi un format de musique électro, du rock and roll, du rock cambodgien, des choses complètement barrées sur les voies avec
Catfish.
Je trouve que c'est dommage d'avoir une vision comme ça un peu réduite, quoi.
Ouais, voilà. C'est clair, c'est la vision parisienne, urbaine en fait, du milieu rural.
C'est ça.
Alors des ensuite, réseau en scène.
Rarement, le pied en Lausanne.
Oui, c'est ça, c'est un peu dommage. Venez nous voir et ne portez pas de jugement avant. Réseau en scène, partenaire aussi de cet événement.
Agence régionale, et puis on a un partenariat média presse avec Mouvement. Voilà, et on est soutenu aussi par l'association nationale qui soutient les musiques de création, qui s'appelle Futur Composé, qui est un réseau en fait à la fois d'artistes et de structures. Fédération, un genre de fédération nationale qui porte une forme de lobby auprès des institutions pour alerter sur la place des musiques de création dans les institutions, dans les projets, etc.
C'est bien.
Composé.
Donc tout ça porté par les scènes croisées de Lozère, une scène conventionnée. Bien, merci Nicolas.
Merci à vous
d'être venu nous expliquer tout ça, nous donner envie d'aller écouter et voir ça du 11 au 15 juin prochain. Voilà, n'hésitez pas, allez vous promener sur le coup s'il fait beau. En plus, c'est magnifique, vous pouvez faire une journée à la fois nature et culture.
Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Merci, tout de suite l'agenda. Donc cette émission sera rediffusée jeudi à 18h11 et samedi à 11h. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
.48 FM Le Mag. L'agenda culturel de la semaine vous est proposé par le Conseil général de la Lozère. Bonjour à tous, nous vous proposons l'agenda culturel de cette semaine. Alors mardi 3 juin, au cinéma Trianon de Mende, de la danse avec le ballet de l'Opéra National de Paris de Georges Balanchine et Benjamin Millepied. Ce sera à 19h15 pour un tarif de 20€ et de 17€ en tarif réduit au cinéma Trianon de Mende.
Alors il faut dire que c'est en direct de l'Opéra Bastille.
Tout à fait.
Très bien.
Et mardi toujours donc à la Genette Verte à Florac du théâtre avec la pièce « Sœur, je ne sais pas quoi frère ». Donc c'est l'histoire de 5 sœurs, d'un secret de famille, d'une poupée omniprésente sur la scène, d'un fusil, d'une menace à l'extérieur, d'un père absent. Affaire à suivre. Ce sera à 20h30, donc pour un tarif de 8€ et de 5€ en tarif réduit, c'est tout public à partir de 8 ans et c'est organisé par la Genette Verte de Florac.
Mercredi 4 juin, à la salle polyvalente de Saint-Germain-de-Calberte, nous avons du théâtre avec l'annonce. C'est une pièce radiophonique et théâtrale dont le son est mixé en octophonie, c'est-à-dire en fait sur 8 pistes à la fois. Voilà. Et bien sûr, en direct avec la salle. Ce sera à 20h30. C'est ouvert au tout public. Et c'est Daniel Martin-Bourré, l'artiste, voilà, qui, qui fait cette proposition. Ensuite, nous aurons le même jour, donc au Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher, une séance cinéma à ciel ouvert, ça s'appelle La frontière franco-belge. Existe un lieu hors du commun qui prend en charge des enfants psychiquement et socialement en difficulté. La projection sera suivie d'un débat avec Hélène Lefebvre, qui est psychologue clinicienne, et Serge Souton, qui est infirmier psychiatre. C'est à 20h30 à Saint-Chély au Ciné-Théâtre. 6,80€ tarif plein, 5,80€ tarif réduit. C'est ouvert au tout public.
Vendredi 6 juin, donc l'annonce, une seconde représentation du spectacle de Daniel Martin-Poré au château du Poujol sur la commune de Bassurel. Ce sera à 20h30 et c'est également tout public. Et dans la même soirée, donc au TMT à Marvejol, Le Sang des Feuilles, c'est un concert à lecture proposé par trois artistes, dont Jean-Marc Bourg, artiste associé du TMT, Rémi Chechetto et Louise Clavis. Ce sera à 20h30.
Alors, Louise Clavis, c'est un musicien.
Voilà. Et ce sera donc à 20h30 pour un tarif de 12€, 8€ ou 5€ au Théâtre de la Mauvaise Tête.
Et ensuite, samedi 7 juin, à la Rentelle Saint-Flour-de-Mercoire, donc au Théâtre Vicinal, vous aurez donc Alexandra David-Néel pour la vie, c'est du théâtre. Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhasa, au Tibet. C'est un spectacle qui évoque sa rencontre à elle avec le Dalai Lama, l'enseignement fourni par un ermite et puis la découverte de la compassion. Donc c'est un spectacle au parfum de voyage, de sagesse et d'espoir. À 20h30 à la Rentelle, 12€, 8€, 5€ pour le tarif réduit et tout public à partir de 10 ans. Et c'est organisé par Hermine de Rien.
Voilà, bonne semaine culturelle à tous.
Bonne semaine à tous.